Que voici.
Miguel Hernandez.
C'est une procédure rare en Valais. Une commission d'enquête examinera le retard pris dans les travaux de correction du Rhône. Le Grand Conseil valaisan était réuni hier lors d'une session extraordinaire. Au cœur des discussions, les intempéries qui ont ravagé une partie du canton cet été. La responsabilité ou non de l'État dans ces crues historiques devra être tirée au clair, Diana Lys-Ramsauer.
Tous les partis l'avaient demandé en septembre dernier, ils l'ont désormais obtenu. Le Parlement a accepté hier à l'unanimité la création d'une commission d'enquête parlementaire. Les députés veulent en effet faire toute la lumière sur les potentiels dysfonctionnements qui ont mené au retard de sécurisation du Rhône, et cela particulièrement à Sierre, frappée par une crue historique cet été. Face aux conséquences humaines et financières des intempéries, et surtout face aux questions qui restent en suspens, le Parlement a donc sorti l'artillerie lourde. La création d'un tel groupe d'investigation n'a été ordonné que 5 fois dans l'histoire valaisanne. Un tel outil parlementaire permettra d'enquêter, d'ouvrir les classeurs, même confidentiels, et d'interroger les personnes responsables, celles d'aujourd'hui et celles d'hier. Le dossier de sécurisation du Rhône est sur la table depuis plus de 25 ans. C'est dire le travail qui s'annonce.
Nestlé annonce un remaniement de sa direction au 1er janvier 2025. La zone Amérique latine et la zone Amérique du Nord fusionneront pour former la zone Amérique. Cela fait suite à la publication aujourd'hui des chiffres de Nestlé sur 9 mois, annonçant une baisse des recettes de 2,4%. Paul Watson demande l'asile politique à la France. Le militant écologique de l'ONG Sea Shepherd, incarcéré au Groenland depuis près de 3 mois, a envoyé une lettre à Emmanuel Macron il y a quelques jours. C'est ce qu'a expliqué hier la présidente de Sea Shepherd France lors d'une conférence de presse. Paul Watson, 73 ans, est sous le coup d'une demande d'extradition du Japon pour des faits remontant à 14 ans, Ariane Asler.
Oui, c'est justement pour tenter d'éviter cette extradition que cette demande d'asile a été formulée, pour faire en sorte aussi que l'intérêt médiatique autour du cas de Paul Watson ne retombe pas. Opposant historique à la chasse aux baleines, celui qu'on surnomme le capitaine risque jusqu'à 15 ans de prison s'il était extradé au Japon. Le gouvernement japonais l'accuse d'avoir causé des dégâts et des blessures sur un baleinier nippon lors d'une campagne de Sea Shepherd en 2010. Pour ses soutiens, ces faits ne sont que des prétextes pour se débarrasser définitivement de celui qui n'a cessé de se battre contre la chasse à la baleine. D'origine canadienne, Paul Watson réside en France depuis 2015 et lors de son arrestation au mois de juillet, Paris avait demandé à Copenhague de ne pas l'extrader vers le Japon. Autant de raisons pour lesquelles il se tourne aujourd'hui vers Emmanuel Macron. Pour l'heure, on ignore si ce dernier lui a répondu. Ariane Asler, RTS Info, Paris.
Volodymyr Zelensky va présenter aujourd'hui son plan de victoire à l'Union européenne et à l'OTAN. Il l'a dévoilé hier au Parlement ukrainien et ce plan exclut toute concession territoriale à la Russie. La diplomatie russe accuse, elle, Kiev de pousser les pays de l'Alliance Atlantique à entrer en conflit direct avec Moscou. Plus d'un milliard de personnes dans le monde souffrent de pauvreté aiguë et la moitié sont des mineurs, a dénoncé aujourd'hui le programme des Nations Unies pour le développement. Ils s'alarment particulièrement du taux de pauvreté 3 fois plus élevé dans les pays en guerre. Et selon eux, il n'y a jamais eu, depuis la Seconde Guerre mondiale, autant de conflits armés. Les États-Unis ont bombardé plusieurs sites des Houthis au Yémen à l'aide de bombardiers stratégiques. Une annonce hier du ministre américain de la Défense. Il s'agit de dépôts souterrains de munitions qui étaient visés. C'est la première fois que ces bombardiers sont utilisés contre les Houthis. C'est un air que vous avez peut-être fredonné, enfant ou adolescent, sans forcément savoir ce que voulaient dire ces paroles. Bonjour Madame Stirnima, comment allez-vous? Est-ce que ça marche? Et votre mari, il va bien? Mario Feurer, son compositeur, est mort mardi à l'âge de 82 ans. Et il a fait de cette chanson, Olivier Chordereau, l'un des plus grands succès en dialecte alémanique.
1,5 million d'exemplaires vendus, numéro 1 en Suisse pendant presque 3 mois. Un carton aussi en Allemagne, en Autriche. C'est grâce à la télévision que cette chanson devient célèbre en 1969, en même temps que les Ministrels, le groupe qui la chante. Un trio zurichois, pur sucre, qui aime se déguiser en troubadour. Mario Ferrer en était le dernier survivant, lui l'enfant de l'emblématique quartier du Niederdorf. Le meilleur endroit pour jouer, disait-il, dans les restaurants, les cafés enfumés ou plus près des gens. L'origine de cette chanson, il la puise dans le répertoire d'une musicienne grisonne qui racontait l'histoire d'une femme plus âgée. Une chanson depuis souvent reprise et remixée. Ici en 2001 par Carlos Perón, l'un des fondateurs du groupe Yellow Zurichois, lui aussi, Grüezi Frau Stirnima, qui sera resté le seul succès commercial des Ministrels.
En hockey sur glace, succès du LHC 2-0 contre Tapara Tampere hier soir en Ligue des Champions. Un derby limanique figurera au programme des huitièmes de finale de la compétition le mois prochain et ils verront s'affronter Lausanne contre le Genève Servette. Et puis toujours en hockey sur glace, mais en National League cette fois, Ajoie a subi hier une véritable correction sur la glace de Zoug. Les Jurassiens se sont inclinés 7-1. Un temps changeant sur le Jura et l'Ouest lémanique avec quelques précipitations, surtout ce matin, le long de la crête des Alpes valaisannes. Un temps nuageux avec des précipitations débordant depuis le sud. Ailleurs, un temps sec et en partie ensoleillé avec des éclaircies de faune. En plaine, il fera un maximum de 17 degrés. Il fera jusqu'à 23 degrés en Valais. Sur le plateau, il y aura une tendance à la bise.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Avec la RTS, célébrons l'humour sur grand écran. Du 23 au 27 octobre, le Vevey International Funny Film Festival fête ses 10 ans. Retrouvez le meilleur du cinéma comique international avec Vladimir Cosma en invité d'honneur. Et pour la première fois, un open air en entrée libre sur la place du marché. Plus d'informations sur vif.ch. Le dimanche 27 octobre, assistez à la remise du prix du public RTS de la meilleure comédie lors de la cérémonie de clôture du festival.
On en parle. Philippe Gérard.
Deuxième partie d'émission, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Et vous n'allez pas le regretter si vous aimez les produits de notre région, puisque l'avant-dernier épisode de notre série sur le patrimoine culinaire alpin nous apporte un peu de douceur, Maya Chollet.
Tout à fait. Dans les profondeurs d'une cave du canton de Nidwald, l'historien de l'alimentation Dominique Flamer m'a fait découvrir le Xig, ou chocolat des forêts. Dominique, on est dans la cave là.
On est vraiment dans la plus vieille cave du monastère où on a installé la cave des Sprints d'alpage. C'est le produit phare de la Suisse intérieure et je suis tellement content qu'on a pu réaliser ça ici. On avait besoin d'un lieu pour le Sprints d'alpage parce que la production était en plein chute ces dernières années. Beaucoup des fromagers ont arrêté de produire ce grand fromage et pour moi, le Sprints d'alpage, le Gruyère d'alpage, ce sont les pères et mères de la tradition fromagère en Suisse.
Le Sprints qui est originaire de exactement là où on est, Stans.
Il est exactement des alpages autour de Stans, du canton de Nidwald, Obwald et une petite partie à Lucerne. Il est descendu aux vallées au XXe siècle parce que les fromagers de Emmental et du Gruyère voulaient produire encore un autre fromage. Ils ont recommencé dans la plaine le Sprints. Ils font un bon travail, mais quand même, comparé à, avec un Sprints d'alpage, c'est autre chose.
Dominique, on est dans cette cave, mais on va pas parler spécifiquement de Sprints, on va parler d'autre chose. C'est quoi ça que vous avez amené là?
Ah, je suis tellement content parce qu'on va parler maintenant d'une des plus grandes découvertes de mes voyages à l'Arc Alpin. J'ai trouvé cette technique de produire du petit lait qui reste après la production du fromage qui reste. On pourrait produire du sérin avec le petit lait, mais on peut aussi produire du Xig, le chocolat du Bregenzerwald, du forêt de Bregenz. Ça s'appelle Xig ou Xig. C'est le sucre du petit lait concentré avec un goût exceptionnel de tous les produits laitiers.
Et vous avez dit que ça s'appelle le chocolat de la forêt?
Ouais, ça vient d'un temps qu'on n'avait pas assez de sucre. Le Xig était plus ou moins créé avec son grand succès pendant la barrière des Anglais contre Napoléon entre 1806 et 1814. Le sucre des Amériques n'est plus arrivé ici. On a cherché de remplacer ce sucre. Dans l'arc alpin, on s'est rendu compte que dans le lait et dans le petit lait reste du sucre de lait. Et on a commencé à cuire ce petit lait, à réduire le petit lait au sucre, et puis on mélangeait ça avec de la crème et du beurre, et comme ça on a créé le Xig. Et pour les gens, c'était quelque chose de doux, à remplacer un tout petit le chocolat, qui était un produit de luxe pour eux.
C'est vrai que si on regarde dans la petite boîte, c'est foncé, C'est dur. Ça ressemble à une masse de chocolat.
J'ai amené deux différents types. Ça, c'est presque du sucre pur du petit lait. Et ça, c'est vraiment le xique mélangé avec de la crème et du beurre. Et si on essaye de goûter ça...
C'est une consistance un peu sablonneuse, comme ça. Mm-hmm. À quoi ça me fait penser?
Le xique brun, on utilise plutôt pour... produire des desserts, pour prolonger le chocolat, pour des pâtisseries. Et le xique blanc, avec du beurre dedans, de la crème dedans, on met vraiment sur une pièce de pain avec beurre, et puis on le met comme une confiture. C'est délicieux. Très, très spécial. Vraiment ma grand-tique ouverte.
C'est vrai que ça a le goût de caramel mou en premier goût. Mais derrière, c'est autre chose. Ça nous fait voyager ailleurs.
Tout d'abord, on sent la douceur des sucres du petit lait. Puis vient l'acidité du petit lait, du fromage dedans. Et finalement, on sent tous les sels, les produits qui restent dans le lait. Et comme ça, c'est un mélange entre douceur, acidité et sel. Et ça, c'est une expérience culinaire très exceptionnelle qu'on trouve presque dans aucun autre produit à l'arc alpin. Ça nous fait voyager aux fromageries, aux crèmeries, non? À l'alpage. Et on a produit ça surtout sur les alpages, au vieux temps. Quand j'ai découvert ça, il y avait encore un producteur aux forêts de Bregenz. Aujourd'hui, c'est une dizaine parce que tous les cuisiniers étoilés ont recommencé à utiliser le xique parce que c'est un produit phare de cette région.
Combien de temps ça met à préparer?
Environ 4 à 5 heures pour réduire le petit lait au sucre.
Comment on dit xique en français?
Oh, sucre du petit lait. Je ne connaissais pas un autre nom. Je ne sais pas si ça existe au monde francophone, mais peut-être à l'avenir, on trouve un autre mot pour ça.
Je n'avais jamais entendu parler de ce produit. Je ne savais même pas que ça existait.
Je crois, avant que nous avons découvert ça au Bregenzerwald, personne qui n'habitait pas au Bregenzerwald le connaissait.
Oui, et ben moi non plus, hein. Je dois dire que ça donne envie d'y goûter. Le xig, c'est donc un des produits décrits dans le livre de Dominique Flammeur, historien de l'alimentation, qui en comprend d'ailleurs des dizaines et des dizaines d'autres de produits. Maya Chollet, vous l'avez lu ce livre, comment vous avez choisi les 5 produits dont vous nous parlez cette semaine?
Alors l'idée était de parler de produits en lien avec une problématique actuelle, par exemple la disparition des poissons d'eau douce ou bien le regain d'intérêt pour les légumineuses avec la cuisine végane. Quant au xig, c'est un ingrédient essentiel contre le gaspillage.
J'ai choisi le xique parce que ça aide beaucoup à diminuer le gaspillage d'alimentation. Parce qu'en Suisse, nous produisons 2 fois plus de petit lait que de la bière. Et la plupart est jeté. Un pourcentage on donne au porc, mais le reste est jeté. Et de ce petit lait, on pourrait faire quelque chose. Le xique est un de ces produits. La production artisanale est pas trop énergétiquement valable parce que ça dure trop longtemps. Mais il y a des autres techniques pour réduire, pour gagner le sucre du petit lait pour faire quelque chose. Et je suis en train de travailler avec une petite entreprise aussi de développer un nouveau produit de ce xique.
Comment ça se fait qu'on jette tout ce petit lait?
Parce que les fromagers ne reçoivent plus de l'argent quand ils amènent le petit lait aux paysans. Ils doivent payer aux paysans quelque chose pour qu'ils l'utilisent pour leurs animaux. Et comme ça, ils le jettent. Ils le jettent dans la canalisation et ils ne font rien avec. La plupart des Suisses connaissent la poudre de matcha du Japon. Ils ont déjà goûté des glaces au yuzu. C'est fascinant, mais ils s'ennuient. Ils se rendent compte que les produits de la régionalité sont de temps en temps plus exotiques que les produits qu'ils peuvent emporter. Parce qu'il y a des milliers de cultivateurs du matcha, il y a des milliers de cultivateurs de yuzu, mais pour le xique, on connaît une dizaine des petits producteurs. Ils produisent quelques tonnes et pas plus. On ne peut pas exporter ça. C'est un produit local, goûté et mangé dans la région. Et je crois vraiment quand Un visiteur, un touriste de la Suisse romande visite le forêt de Bregenz. Il reçoit le matin un xic comme alternative pour la marmelade, la confiture. Il va goûter ça, il va être fasciné par le xic. Et c'est la même chose si je voyage dans la Suisse romande et je reçois une marmelade de la damascine à l'ajoie, par exemple. Je suis tellement content que je peux goûter un fruit qu'on connaît pas chez nous. Et c'est la raison pour laquelle je voyage. Je voyage pour voir les biens culturels dans une région. Je voyage pour écouter la langue, les dialectes que les gens parlent. Mais je veux aussi goûter le terroir. Et ce sont les produits qui me font goûter une culture qui est liée vraiment au terroir dans la région où je suis le touriste.
Dominique Flammer, historien de l'alimentation et auteur notamment du livre Das Kulinarische Erbe der Alpen, l'héritage culinaire des Alpes, livre en allemand donc, dont vous trouverez les coordonnées en lien sur notre site. Demain, dernier épisode de cette série sur notre patrimoine culinaire alpin, Maya Cholet, qu'est-ce que vous nous mijotez ?
Une petite surprise. Demain, on parle de viande et notamment d'une petite boule de poils et de graisse bien connue de nos Alpes. On parle de marmotte. À demain et bon appétit.
I tried.
Satisfaction, les Stones à 9h19, place au meilleur moment des guichets, dont on en parle. Et ce matin, il est question de bilinguisme et de plurilinguisme. Nous répondions à vos interrogations sur ce sujet en mai dernier. Et pour ce faire, Mathieu Truffert avait convié deux invités qui vous seront présentés dans un instant. Mais avant cela, j'avais demandé à Mathieu de nous faire un état des lieux du plurilinguisme en Suisse, en lui demandant si on disposait de chiffres à ce sujet.
Alors oui, c'est un sujet qui intéresse beaucoup l'Office fédéral de la statistique. Donc oui, on a beaucoup de chiffres. La difficulté vient plutôt de la définition du plurilinguisme. Cette définition a fluctué au fil du temps et donc les chiffres du plurilinguisme aussi. Il y a 10 ans, pour être considéré bilingue, on parlait d'une maîtrise équivalente de 2 langues ou plus. C'était donc très restrictif. Par exemple, l'Office fédéral de la statistique, quand il faisait ses enquêtes, demandait aux gens s'il leur arrivait de penser ou même de rêver dans une deuxième langue. Avec un critère comme celui-là, les chiffres du bilinguisme étaient bas, forcément, aux alentours de 15% de la population. Aujourd'hui, pour faire les mêmes statistiques, 10 ans plus tard, le même office fédéral utilise plutôt l'idée d'utilisation régulière d'une langue, utilisation à la maison, en famille, à l'école, au travail, lecture des médias même. Et là donc, les chiffres s'envolent. Un total de 68% de la population suisse utilise plus d'une langue au moins une fois par semaine. Et c'est peut-être ce chiffre qui est intéressant et qu'il faut retenir aujourd'hui. Alors, comment faire lorsque, à la table du petit-déjeuner, il y a du français, du portugais, de l'allemand, de l'albanais, de l'anglais, d'autres langues peut-être encore, et que toutes ces langues se télescopent? Y a-t-il risque de confusion? Faut-il s'en tenir, comme on le disait pendant longtemps, au principe d'une langue, une personne, ou au contraire laisser faire et y aller spontanément? Et puis, qu'en est-il de celles et ceux qui souhaitent devenir bilingues ou plurilingues, enfants, adolescents ou plus tard? Quid des filières bilingues, des échanges, peut-être des solutions sur Internet?
Tout sur le bilinguisme et même le plurilinguisme, c'est on en parle jusqu'à 10h pour répondre à vos questions. Et deux spécialistes sont ici en studio. Bonjour à vous, Laurent Gaillot.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université de Genève, vous êtes linguiste, spécialiste du plurilinguisme. Alors on vient de le dire, la définition du bilinguisme, voire du plurilinguisme a fluctué. Quelle est votre définition à vous?
Ma définition à moi est peut-être pas si intéressante que ça, parce que chacun peut avoir sa propre définition du bilinguisme, du plurilinguisme, de son plurilinguisme, si la personne vit en situation de plurilinguisme. Mais j'aurais tendance à dire que le plurilinguisme, on est plurilingue à partir du moment où on a plusieurs langues dans sa vie. On pourrait ajouter où on a l'usage de plusieurs langues dans sa vie. Mais c'est vrai qu'en tout cas, je bannirais le terme de maîtrise, qui effectivement a été largement discuté dans la recherche et parfois débattu dans les milieux éducatifs. Mais même si aujourd'hui on a tendance à critiquer cette notion de maîtrise parce qu'elle est difficile à cerner, on pose jamais la question de savoir à partir de quand on maîtrise sa langue première ou maternelle, à partir de quand on est un parfait monolingue. On la pose pour le bilinguisme ou le plurilinguisme, mais cette notion évidemment est assez étroite, mais elle est quand même toujours présente dans l'esprit des gens, dans les discussions, donc on peut pas faire comme si elle n'existait pas. Simplement, il faut essayer de montrer qu'il y a d'autres façons d'approcher le bilinguisme, et la maîtrise peut être effectivement un critère important dans certains secteurs professionnels. On peut vous attendre sur la maîtrise de certaines langues, mais c'est toujours attaché à certaines langues, à des langues en particulier, et pas forcément au plurilinguisme en tant que tel. Donc j'opterais plutôt pour l'idée d'avoir l'usage de plusieurs langues dans sa vie et de faire en sorte que plusieurs langues fassent sens finalement dans votre quotidien.
Laurent Gaillot, notre premier invité, et à vos côtés, bonjour à vous Claudia Bartholémy.
Bonjour.
Vous êtes directrice pédagogique de l'école Montolivet et maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne. Vous êtes une spécialiste de l'enseignement et de l'apprentissage des langues. On entend souvent dire justement cette théorie autour de l'apprentissage des langues, plus c'est tôt, plus c'est facile. Est-ce que c'est vrai?
Alors, comme d'habitude, la réponse est oui et non. C'est-à-dire, il y a des domaines pour lesquels c'est plus facile quand on apprend tôt une langue, notamment les domaines de la prononciation, de la prosodie, c'est-à-dire la musicalité d'une langue, la capacité d'imiter ou de prononcer correctement une langue. Et je dis correctement entre guillemets parce que l'essentiel, c'est effectivement d'être compris, mais très souvent, cette impression de maîtrise, et je le mets aussi entre guillemets, vient d'une bonne prononciation, beaucoup plus que d'une richesse lexicale ou de la correction grammaticale, etc. Donc oui, pour cette prononciation, pour aussi la, je dirais, la fraîcheur avec laquelle un jeune enfant regarde une nouvelle langue sans avoir les a priori comme quoi, ah mais l'allemand est difficile ou je sais pas, l'anglais est très facile. Et donc la jeunesse a cette fraîcheur de rencontrer les langues sans a priori. Non, parce que le cerveau d'un jeune enfant évidemment structure autrement que le cerveau d'un adolescent ou d'un adulte. Donc les apprentissages formels ne sont pas possibles. Il faut un taux d'exposition digne de ce nom, c'est-à-dire l'enfant doit être vraiment exposé à la langue et c'est comme ça qu'il acquiert plutôt qu'il apprend.
Le guichet dont on en parle, en nouvelle diffusion.
Claudia Bartolémy, Laurent Gaillot, nos deux invités pour parler de bilinguisme et de plurilinguisme jusqu'à 10h. Mais d'abord, Mathieu, nous entendons un témoignage.
Celui de Francisca, elle vit aujourd'hui sur les Hauts de Vevey. Les parents de Francisca étaient suisses-alémaniques. Elle a vécu petite fille aux États-Unis. Elle s'est ensuite établie en Suisse romande. Elle est médecin de profession. Elle a exercé en français et en allemand. Toute sa vie, donc, elle a été au croisement de plusieurs langues écoutées. Francisca, vos premiers mots, vous les avez prononcés dans quelle langue ?
Ah, alors je pense que c'était en suisse-allemand, mais oui, sûrement, parce que mes parents parlaient suisse-allemand, mais ils habitaient aux États-Unis à cette époque. Et donc, les 5 premières années de ma vie, je les ai passées aux États-Unis. Donc, j'avais des petites copines dans les alentours qui parlaient anglais. Et puis, j'ai aussi fait une année d'école enfantine aux États-Unis. Donc, je parlais couramment l'anglais.
Est-ce qu'il y avait une forme d'organisation, de discipline peut-être dans la famille ? Là, c'est l'allemand, puis à l'extérieur, c'est l'anglais. Ou avec telle personne, c'est l'allemand. Ou dans telle situation, c'est l'anglais ? Où tout le monde faisait ce qu'il voulait quand il voulait.
Je pense que c'était ça, mais ça, honnêtement, je ne me rappelle pas, parce que j'étais trop petite. Je me rappelle plus par la suite, si vous voulez, après, quand on a quitté les États-Unis pour venir vivre en Suisse romande. Et là, c'était assez clair, parce que mes parents, ils ne parlaient pas bien le français, en fait. Donc là, c'était davantage clair. On parlait le suisse-allemand à la maison et le français à l'extérieur.
À la fin du XXe siècle encore, le corps enseignant souvent s'inquiétait des enfants bilingues, trilingues peut-être. Il pensait, c'est quelque chose qu'on disait souvent, que c'était source de confusion chez les enfants. On vous a tenu des théories comme ça ? On a parlé comme ça à vos parents ?
Je crois pas, mais parce que probablement, en fait, je suis même pas sûre que les enseignants savaient que j'étais bilingue. Vous voyez, on est arrivé là, si je me souviens bien, au début de l'été, donc ça devait être les vacances scolaires. Et puis en quelques mois, j'avais déjà pas mal appris le français. J'ai été une année à l'école enfantine. Ensuite, quand j'ai commencé l'école primaire, je parlais français. Donc je crois que personne savait que je parlais suisse-allemand à la maison, en fait. J'avais pas d'accent.
Ça a été une lutte pour vous, pour gommer un éventuel accent ? Ça s'est fait tout seul ?
Non. Simplement, c'est comme ça. Je parle le suisse-allemand que j'ai appris. C'est un peu un mélange, comme ça, je crois. Et puis, en français, je crois que j'ai plutôt un accent vaudois, en fait, après ce que je crois. En tout cas, les Français, en tout cas, quand ils m'entendent parler, ils rient plutôt, parce qu'ils disent que j'ai l'accent suisse, comme ils disent.
Non, pas sauter. Voilà.
Donne-la
manger.
Oui, donne-la manger.
Ça va la calmer.
Ah. Ja, ich will eine Sprache zu du. Dankst du?
Ich
Infotrafic RTS.
Voilà, on interrompt ce programme pour une information trafic urgente. Un véhicule roule actuellement à contresens sur l'autoroute A5 Neuchâtel-Yverdon entre Vaumarcu et Grandson. Quelle que soit votre direction, rabattez-vous impérativement sur la voie de droite et ne dépassez sous aucun prétexte. Je répète, un véhicule roule actuellement à contresens sur l'autoroute A5 Neuchâtel-Yverdon entre Vaumarcu et Grandson. Quelle que soit votre direction, rabattez-vous impérativement sur la voie de droite et ne dépassez sous aucun prétexte.
Also eigentlich hauptsächlich auf Deutsch am Anfang, aber jetzt gemischt.
Gemischt, gell?
Ja.
Votre mari est arrivé à l'instant avec, avec le chien. Vous parlez français, allemand, suisse-allemand avec lui. Comment vous faites?
Alors, avec mon mari, on parle en principe suisse-allemand.
Je l'ai tant que
Also, mit dem Hund reden wir auch verschiedene Sprachen. Donc, ça veut dire avec le chien, on parle aussi différentes langues, en fait. Oui. On a des mots suisse-allemand pour certaines choses et puis des autres en français. Puis après, tout d'un coup de l'anglais aussi, parce que ça va mieux pour le chien. Voilà.
Là, vous m'avez parlé en suisse-allemand en me regardant comme si je vous comprenais. Vous étiez consciente de ça?
Non, non, en fait pas. Non, justement, je vous dis, c'est un peu... on a l'habitude de passer d'une langue à l'autre.
Vous avez eu des enfants. Pour vous, est-ce que c'était naturel de partager ce que vous avez vécu, au fond, qu'ils parlent plusieurs langues?
Oui, absolument, oui. Alors, consciemment, déjà... c'était vraiment une volonté de leur faciliter la vie parce que moi j'ai eu l'impression d'avoir reçu un cadeau. Donc pour moi c'est important de leur faire ce cadeau-là aussi.
Sur la base de votre expérience aujourd'hui, ce serait quoi votre conseil aux gens qui se posent la question de parler ou pas plusieurs langues au sein de la famille, à l'école?
Si c'est possible de garder la langue qui est la langue qu'on parle en famille, c'est vraiment quelque chose. Enfin, ça vaut vraiment la peine, quoi. Et je pense que moi, j'ai eu le sentiment, en tout cas, que ça me facilitait l'apprentissage d'autres langues. C'est ce qu'on dit d'ailleurs aussi, hein. C'est que si on parle deux langues, c'est plus facile d'en apprendre une troisième, etc. En plus, si on parle deux langues qui sont pas de la même racine. Je pense que c'est encore un avantage supplémentaire, si vous voulez, hein. Si c'est possible, si ça pose pas de problème à l'enfant, je crois que ça vaut vraiment la peine de faire cet effort, oui.
Le témoignage de Francisca qui illustrait le thème de notre guichet du printemps dernier, le plurilinguisme, et on y revient dans un instant avec nos deux invités.
Infotrafic RTS.
Il n'y a plus de danger lié au contresens annoncé précédemment sur l'autoroute A5 Neuchâtel-Yverdon entre Vaumarcu et Grandson. Musique suisse sur RTS La Première avec une genevoise qui cartonne en France. Elle va même faire une apparition dans la fameuse émission de France 2 Taratata. Me glisse notre programmateur musical Willy Dezelu. Voici Stéphane, ma chérie. Oui, ma chérie, c'est donc le titre de la chanson. C'est pas moi qui me permet des familiarités. Hein. Fallait juste le préciser.
Je lui écris, j'avoue, c'était hier chez nous. De nouveaux pièges, c'est lourd, je sens ses yeux, amour. Mais c'est pas pour elle que je fonds, puisqu'au fond, elle n'aime pas les blondes. Mais c'est pas pour elle que je pars, à mon égard, son cœur déclare. Je la laisse là, c'est mort.
C'est cool, mais toi et moi, ça va pas le faire. En tout cas, prends soin de toi.
La vie côté pratique, on en parle jusqu'à 10h.
Sprechen Sie mehrere Sprachen? Do you speak several languages? Habla varios idiomas? Parlez-vous plusieurs langues? Eh bien, si la réponse est ya, yes, si ou oui à ces questions, vous êtes plurilingue. Et donc, le sujet de notre Best of Guichet peut donc vous intéresser. On retrouve Claudia Bartolémy, spécialiste de l'enseignement et de l'apprentissage des langues, et Laurent Gaillot, linguiste et professeur à l'UNI de Genève, les deux invités que Mathieu Truffert avait réunis en mai dernier pour répondre à vos questions telles que celles-ci. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour. Merci pour votre émission qui est toujours très intéressante. Je voulais savoir combien de langues peut-on parler autour des petits-enfants sans trop les surcharger. Il y a une limite où chez nous, il y en a portugais, suisse, allemand et français. Et puis je me demande s'il y a une limite à ne pas dépasser.
Claudia Bartolémy.
Alors la réponse est absolument simple, c'est-à-dire... Non, il n'y a pas de limite. Un enfant peut être exposé à plusieurs langues sans aucun problème. Maintenant, c'est l'enfant de toute manière qui va manifester ses limites, c'est-à-dire soit il vous répond pas forcément dans la langue que vous lui parlez, soit plus tard il refuse de le faire, mais continuer, c'est-à-dire il y a aussi la compréhension d'une langue qui est très très précieuse. Donc, si vous en avez trois, ne vous faites aucun souci. L'essentiel, c'est d'avoir des relations, des liens très forts avec l'enfant, parce que l'enfant va effectivement apprendre les langues des gens avec lesquels il a des liens très forts.
Merci beaucoup à Daniel pour cette question. J'enchaîne avec vous, Claudia Bartolémy. On peut donc s'exposer ou exposer un enfant à de nombreuses langues. Est-ce qu'il faut quand même un petit peu d'organisation et de discipline l'une après l'autre ou on laisse les choses venir comme elles viennent?
Alors ça dépend beaucoup, c'est-à-dire l'organisation de la vie de famille est un vaste sujet. Donc effectivement, si vous pouvez vous organiser, c'est-à-dire pour l'enfant que ce soit clair que par exemple le grand-papa parle l'allemand et puis la tante le suédois, il n'y a aucun problème. Maintenant, le plurilinguisme dans les familles est parfois un mélange de plusieurs langues et effectivement, les choses se mettent uniquement en place si le taux d'exposition, comme je l'ai déjà dit, est suffisamment grand. Il faut veiller surtout à cela, c'est-à-dire le taux d'exposition à une langue ou plusieurs en même temps, et après il y aura des profils.
Est-ce que la présence de l'IA, donc l'intelligence artificielle, les traducteurs automatiques, change la donne? Est-ce que finalement c'est encore valorisé maintenant, Claudia Bartolémy, d'être plurilingue, alors qu'en fait il est très facile de se faire comprendre avec des outils tout à fait performants?
Oui, le défi de l'intelligence artificielle, c'est effectivement qu'on devient, je dirais, extrêmement paresseux. en ce qui concerne l'apprentissage des langues, et donc aussi paresseux par rapport à l'intelligence humaine. Et l'intelligence artificielle peut apporter énormément pour l'apprentissage des langues, mais je dirais plutôt si vous avez déjà un bon niveau, parce que vous pouvez, identifier vos besoins communicatifs et puis utiliser l'intelligence artificielle pour les réaliser. Idem bien sûr pour un débutant, mais un débutant ou une débutante ne va pas acquérir grâce à l'intelligence artificielle, alors que quelqu'un qui est avancé dans une langue peut acquérir grâce à l'intelligence artificielle.
On en parle, le guichet, en nouvelle diffusion.
Bonjour Reto.
Bonjour. Alors moi je suis d'origine tessinoise, donc au départ j'ai déjà deux langues, le patois et l'italien. Je suis à Genève en 72, j'ai enseigné une quarantaine d'années dans l'enseignement secondaire. Puis j'ai appris pour différentes raisons le portugais. Et maintenant je maîtrise trois langues écrites. D'ailleurs j'ai publié un livre sur la Russie de Juillet en portugais. Je l'ai écrit de toutes pièces en français et je suis en train de corriger la version italienne. Et pour moi, la langue, c'est pas simplement une grammaire, c'est une façon de penser. Quand je parle en français, je pense uniquement en français, et également pour les deux autres langues, et aussi quand je parle mon patois. J'ai pas d'interférence. Mes trois enfants sont parfaitement trilingues. J'ai deux petits-enfants et mon petit-fils parle aussi les trois langues. Voilà, je pense que je vais donner. Pour l'intelligence artificielle, je suis d'accord avec madame. Je l'utilise parce que je connais déjà bien les langues. Sinon, on risque de traduire mal, il faut voir, parce que l'intelligence artificielle parfois traduit mal. Par exemple, j'avais un texte qui disait « Les officiers modérés, disaient un Allemand, ont évité un coup d'État de l'extrême gauche. » La traduction en français, c'était « Les officiers modérés ont organisé un coup d'État. » Vous voyez donc, madame a tout à fait raison quand elle parle de ça.
La langue, c'est... merci beaucoup, Reto, de votre témoignage. Hein. Ce que vous dites, la langue, vous validez, Laurent Gaillot ?
Oui, absolument. Déjà, je retiens ce que vous avez dit à propos du patois, de votre bilinguisme initial entre le dialecte, un dialecte tessinois et l'italien standard. Ça, c'est une chose déjà à dire aussi. Parfois, quand on parle des langues, les langues qu'on parle, alors on identifie les langues qu'on parle, alors qu'il y a des langues qu'on comprend, des langues qu'on écrit, etc. Mais on parle souvent de langues. Alors déjà, les dialectes, les patois, on a tendance à les laisser dans l'ombre, alors qu'effectivement, ils alimentent déjà ce bilinguisme, ce plurilinguisme. Mais effectivement, vous avez raison de souligner cette idée que les langues ne servent pas finalement qu'à communiquer. On a l'impression que le plurilinguisme est toujours assujetti à une perspective utilitariste. Il faut que ça serve et que ça serve à communiquer de manière efficace et pour faire des choses importantes. Donc on a l'impression que ça sert plus à dépenser qu'à penser les langues. Mais effectivement, il faut souligner cet aspect de pensée. Je prends juste un petit exemple. J'ai lu récemment un article où on parlait des langues à Mayotte, hein, une île de l'océan Indien. Et puis on enseigne évidemment en français, dans d'autres langues. Mais il y a aussi les langues locales comme le Chimaoré. Et puis on se rend compte, par exemple, que pour désigner, quand on enseigne les mathématiques, quand on désigne le carré et le rectangle, on a un seul mot en Chimaoré. Certains diront, vous voyez, c'est une langue pauvre, ça n'a rien à voir. C'est une langue qui organise différemment les choses. Mais effectivement, quand une personne bilingue chimaoré français n'a pas les mêmes entrées sur les quadrilatères, un même mot pour dire carré rectangle, c'est aussi une chance. Ça vous résiste, mais ça vous fait réfléchir parce que ça vous montre que il y a une proximité entre le carré et le rectangle et ça aidera peut-être même l'apprentissage des mathématiques ou en classe de maths, à un moment donné, vous allez rencontrer l'énoncé, carré est un rectangle. Hein, il y a un rapport d'inclusion. Et ça, on a du mal à le comprendre parce que en français, on sépare ces deux formes, alors que dans cette langue-là, elles sont associées. Et c'est pas forcément, une langue n'a pas raison sur l'autre, mais essayer d'interroger ces décalages, ces résistances, c'est important. Et donc, il faut pas forcément enjamber la diversité, mais la prendre au sérieux.
Différentes langues et différentes façons de penser. C'est passionnant. On reçoit pas mal de messages par écrit aussi, dont celui de Valentine, qui nous dit, nous sommes une famille trilingue, français, allemand, anglais. Le moment où les enfants apprennent à lire et écrire à l'école a été particulièrement difficile pour eux, car cela leur demandait beaucoup d'efforts et ils faisaient beaucoup de fautes au début. Nous avons maintenu notre utilisation des trois langues malgré tout. Aujourd'hui, les enfants passent d'une langue à l'autre sans problème, à l'oral et à l'écrit. Cette question peut être pour vous, Claudia Bartolomei, pardon, excusez-moi. Comment rendre ce moment difficile plus facile? Peut-être quel quels sont les petits trucs à utiliser, quelles sont les fautes à ne pas commettre pour que cette deuxième, cette troisième langue ne soit pas des corvées, en fait, pour les enfants, mais soit l'enrichissement dont on parle depuis un moment.
Alors, je crois, la première règle, si j'ose l'appeler ainsi, c'est de se dire que apprendre à lire et écrire est difficile pour n'importe quel enfant. C'est-à-dire, ça demande énormément de concentration, d'effort, d'attention dans notre cerveau, etc. C'est pas forcément lié au plurilinguisme. La deuxième chose, c'est très important que...
Donc, privilégier peut-être l'oral dans un premier temps?
Oui, absolument. Privilégier l'oral dans un premier temps, ça c'est absolument important. Et en même temps, c'est-à-dire accepter que l'acquisition d'un schéma alphabétique et justement de d'écriture soit faite dans une langue qui devient une langue de référence pour les autres. C'est-à-dire après, on opère par contraste. C'est-à-dire en français, ça s'écrit comme ça, en allemand comme ça. Et puis, je le dis au passage, parce que j'y tiens beaucoup, l'allemand est beaucoup plus facile à écrire que le français et l'anglais.
C'est vrai. On serait quand même tous un petit peu monolingues, au fond.
Absolument, parce que il faut qu'il y ait une solide base, une référence, une langue de référence qui nous donne justement ce socle pour en aborder d'autres. Pas forcément à l'oral, mais à l'écrit, je dirais oui.
Claudia Bartolémy, directrice pédagogique de l'école Montolivet, qui enseigne aussi à l'université de Lausanne. On la retrouvera tout à l'heure aux côtés du professeur et linguiste Laurent Gaillot pour la suite des meilleurs moments de ce guichet sur le bilinguisme et le plurilinguisme. On reviendra notamment sur l'exposition des enfants à des langues différentes.
For the days when I don't believe, when our love gets stolen, 'cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. Whatever. All the darkest moments, oh, I promise they'll be safe with me. We've all been broken, there's no exception. What you carry it so gracefully. Let this night invade my lungs, you're all I want to breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. My lungs, you're all that I want to breathe. Right beside you down at the lake, I burn for you, burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. And hold me the way that you would for the final time. There's always this version.
Kiss Me, le chanteur irlandais Dermot Kennedy. Retour au meilleur moment de notre guichet sur le plurilinguisme avec nos deux spécialistes, Claudia Bartolomei et Laurent Gaillot. C'était en mai dernier et nous recevions ce téléphone. Bonjour Malek.
Bonjour Monsieur Dame, merci pour votre émission. En fait, moi-même, suisse, mais d'origine algérienne, j'ai trois gamins, comme on dit par là, n'est-ce pas? Les trois gamins, chacun sa personnalité. Un qui parle français facilement, mais pas du tout arabe. Le deuxième qui jongle entre les deux. Et la petite qui est presque arabe, presque, même elle a construit un langage à elle-même. On a de la peine à comprendre ce qu'elle dit des fois, tellement qu'elle mélange. La question c'est que, est-ce qu'on doit insister pour ne pas perdre cette occasion? Parce que j'ai l'impression que petit, on apprend vite et facilement. Est-ce qu'il y a un certain âge limite qu'on ne doit vraiment pas le dépasser pour qu'on profite de cette facilité-là? Ça, c'est un. Et deux, est-ce que aussi, sauf erreur de ma part, j'avais une amie que eux, ils ont échangé les enfants entre deux familles et ils ont passé une école une année l'un chez l'autre. Comme ça, ils profitent de cette occasion-là. Ça existe comment, quand et tout. S'il vous plaît.
Qui veut répondre? Laurent Gaillot.
Alors, je peux commencer sur la question de l'âge. Hein. Il faut d'abord préciser qu'effectivement, on peut devenir bilingue ou plurilingue à tout âge, jusqu'à sa mort. Alors, on suivra pas les mêmes stratégies pour développer ses ressources langagières, mais il n'y a pas un âge limite à partir duquel on ne pourrait plus développer de ressources langagières dans de nouvelles langues. Mais c'est vrai que si vous avez plusieurs langues en famille qui font sens, autant les mobiliser. Elles seront utiles, sans doute, pour les enfants. Alors, ils vont manifester leur plurilinguisme de façon variable, hein, en fonction des âges, en fonction de leur trajectoire. Mais je pense que ça peut être tout à fait bénéfique. Alors, quand un enfant est relativement jeune, il accueille les langues avec curiosité, sans barrière d'une certaine manière. Il y a peu d'inhibition par rapport aux langues. Et c'est bien de profiter aussi de cet âge-là si on considère que les langues sont disponibles. Parce que parfois, quand on introduit des langues par l'école à l'adolescence, on se rend compte qu'il y a davantage de contrôle social, davantage de gêne par rapport à la mobilisation d'autres langues. Donc autant utiliser les langues qui sont là pour les introduire de façon régulière dans le vécu. Après, ça permet aussi de normaliser finalement l'environnement multilingue ou plurilingue. Hein. Ça montre effectivement qu'on peut grandir, se développer, découvrir le monde à travers plusieurs langues. Et après, si l'école aussi nous amène plusieurs langues, si le travail nous amène à travailler dans plusieurs langues, on va considérer que cet environnement diversifié est finalement usuel, habituel. Tandis que quand on essaie de canaliser l'éducation à travers une seule langue, d'une certaine manière, on va normaliser, standardiser le fonctionnement monolingue et c'est plus difficile ensuite d'accepter qu'on puisse fonctionner de manière ordinaire avec plusieurs langues.
Claudia Bartolomei.
Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous avez plusieurs enfants, parfois le premier maîtrise mieux les langues que le deuxième et le troisième.
On n'est pas tous égaux devant l'apprentissage des langues.
Non, on n'est pas tous égaux. Et puis un premier enfant a le privilège d'avoir ses deux parents complètement focalisés sur l'enfant. Mmh. Alors que dès qu'arrive le deuxième, il faut partager l'attention avec le troisième, même le partager encore plus. Donc c'est pas étonnant qu'un premier enfant, très souvent, est celui qui parle le mieux toutes les langues. Il a un petit avantage.
On reçoit pas mal de questions par écrit aussi. On va essayer de rendre justice à ceux qui nous écrivent, à celles et ceux qui nous écrivent. Joachim, notamment, que pensez-vous des parents qui apprennent une langue à leurs enfants qui n'est pas leur langue maternelle, mais une langue secondaire, professionnelle, par exemple? Est-ce vraiment un plus ou vaut-il mieux se concentrer sur sa langue maternelle? Bon, là, on est un petit peu dans l'apprentissage utilitaire des langues. On est nombreux à vouloir apprendre l'anglais, l'allemand à nos enfants en leur disant « ce sera important pour eux, ça va leur donner un avantage dans la société ». Qu'est-ce que vous en pensez, Claudia Bartolomei?
J'ai une réponse très très simple, parlez la langue de votre cœur.
Tout simplement. Oui. Donc pas se forcer en fait.
Non, non.
Il y a aussi la question de la prononciation qui est intéressante. C'est Christian qui la pose. Être un parfait monolingue, c'est un mot nouveau pour moi, dans sa langue maternelle, déjà pas évident. Avec cette faculté d'imiter la manière de prononcer certaines langues, ne viendrait-elle pas de la plasticité du cerveau des enfants et surtout de l'immersion de cet enfant au niveau de l'endroit où il vit? La question de la prononciation, est-ce qu'on a avantage à apprendre des langues tôt pour ensuite développer la capacité de prononcer correctement un plus grand nombre de langues? Là, je vous regarde un petit peu tous les deux. Laurent Gaillot, peut-être, pour commencer.
Alors, je peux commencer. Alors, c'est vrai qu'on est, souvent focalisé sur la prononciation. Claudia Bartolomei le disait tout à l'heure, c'est quelque chose, effectivement, qui a une forme de primauté hein, dans l'interaction orale. Et effectivement, ça joue un rôle important. Alors, on va insister sur le fait qu'on soit intelligible hein, dans une langue de communication. C'est important, évidemment, pour l'interaction verbale. Maintenant, c'est vrai aussi que les compétences, les ressources de prononciation phonético-phonologique se développent particulièrement bien quand on est jeune, parce qu'à mesure qu'on évolue dans nos expériences langagières, on devient sourd et aveugle d'une certaine manière. Hein. On sélectionne les ressources qui nous sont le plus utiles et parfois on restreint sa capacité à être curieux, à entendre, à voir, etc. Il faut parfois rééduquer plus tard cette capacité, on peut le faire, mais disons que c'est vrai que dans les premières années, autant effectivement essayer d'exposer largement l'enfant. Maintenant, j'aimerais juste dire une chose quant à l'accent aussi. Il y a une forme aussi de focalisation sur l'accent qui conduit à dire qu'une personne qui aurait un accent serait peut-être pas bilingue. J'ai un accent, donc je ne suis pas bilingue.
Pendant longtemps, ça a disqualifié.
Oui, on peut encore avoir ce genre d'attitude. Alors effectivement, votre accent dit quelque chose, mais pour prendre les choses à l'envers, j'ai envie de dire que quand on entend un accent, on entend du bilinguisme. J'entends quelqu'un parler français avec un accent, j'entends le français plus quelque chose. Alors que très souvent, quand on entend quelqu'un parler le français avec un accent, on a tendance à entendre du français moins quelque chose, diminué de quelque chose, privé de quelque chose. Alors ça, il faut aussi un petit peu faire attention, parce que quand on a cette obsession d'un accent qui serait invisible, d'une certaine manière aussi, hein, un français qui ne trahirait la présence d'aucune autre langue, on alimente aussi cette idée que le bilinguisme est quelque chose qui doit s'appuyer sur une maîtrise parfaite, égale, donc qui ne doit pas être visible d'une certaine manière. Alors c'est rarement le cas, et c'est pas utile que ce soit le cas.
Cette question peut-être encore de Marianne qui nous dit « Ma petite fille est plurilingue, elle parle français avec son papa, slovène avec sa maman, elle parle hollandais à l'école, elle entend parler régulièrement l'anglais. Lorsqu'elle chante ou parle en jouant, c'est plutôt en hollandais. A-t-elle une langue maternelle ou est-ce que c'est la langue dans laquelle elle joue ou pense ?» Alors cette question de la langue maternelle, après tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, maintenant, est-ce qu'elle a encore une importance, Claudia Bartolomei ?
Alors, écoutez, on parle maintenant parfois avec des mots plus neutres, et puis on dit la première langue, la deuxième langue, la troisième langue. Moi, j'aime bien le terme de langue maternelle. Je le dis
pourquoi
haut et fort.
Pourquoi pas langue paternelle ?
Langue paternelle, langue parentale, d'accord. Mais en tout cas, langue plus que première, dans le sens langue du cœur, je l'ai dit tout à l'heure. Et oui, elle a plusieurs langues. Donc pas forcément maternelle, mais plusieurs langues, votre petite fille. Et la langue de scolarisation, c'est-à-dire la langue dans laquelle on va à l'école, va souvent prendre le dessus. Ça, c'est un phénomène quand même assez fréquent, dans le sens où cette langue-là, qui est utilisée aussi pour acquérir après des matières, pour parler de différentes disciplines, pour utiliser un registre de langue plus élevé, il va prendre le dessus sur les langues qui sont uniquement orales et pratiquées à la maison.
Laurent Gaillot, peut-être un dernier commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit ?
Oui, cette notion de langue maternelle est un piège un peu, elle est peut-être utile, mais effectivement, il faut la sortir d'autres notions. J'aime bien parler de langue principale, d'une certaine manière, mais il y a des langues, effectivement, qui sont peut-être plus couvrantes que d'autres à un moment donné dans votre vie, parce que elles servent à plus de tâches, elles sont présentes dans plus de domaines, elles véhiculent plus d'activités, mais cette présence ou cette primauté des langues peut évoluer au cours de votre vie. Souvent, elle évolue. Il y a des personnes qui sont les personnes migrantes qui sont depuis longtemps en Suisse romande, par exemple, peut-être continue à parler le français avec un fort accent portugais, par exemple. Mais quand elles vont parler portugais, quand elles vont rentrer dans leur famille au Portugal, elles vont parler le portugais aussi avec des traces de français. Mmh. Et parfois, elles disent, mais finalement, je suis en train d'oublier ma langue maternelle. Non, vous êtes en train de devenir bilingue, ou en tout cas, de développer votre bilinguisme.
Laurent Gaillot, linguiste et professeur à l'Université de Genève, aux côtés de Claudia Bartolomei, directrice pédagogique de l'école Montolivet et maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne, tous deux spécialistes du plurilinguisme. Il et elle répondaient à vos questions le 6 mai dernier sur l'invitation de Mathieu Truffert. Puisqu'on a encore un petit peu de temps avant de retrouver Stéphane Gabiot qui piave d'impatience de nous parler
CQFD,
vous parlez, un petit appel à témoins, hein, vous dire que si vous souffrez d'anxiété ou de crise de panique récurrente, vos angoisses, vos rendent votre quotidien difficile ou alors au contraire vous avez trouvé des solutions pour vous débarrasser de cette anxiété qui vous empoisonne la vie. Ça peut être d'ailleurs aussi lié à une anxiété saisonnière, donc liée à l'automne. Eh bien, votre témoignage nous intéresse. Contactez-nous par email à l'adresse onenparle@rts.ch ou par téléphone, par WhatsApp, Signal, Telegram, Tréma, au 076-206-1212. Vous nous envoyez simplement un message via ces messageries. 076-206-1212. Et puis le 0800-108-208 est notre répondeur. Vous pouvez aussi utiliser ce numéro-là.
On en parle. Philippe Gérard.
Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors ce matin dans CQFD, une maladie, la spondylarthrite.
Oui.
Spondylarthrite,
effectivement. C'est une inflammation qui touche en particulier la colonne vertébrale et le bassin, qui provoque de très fortes douleurs. On va entendre le témoignage d'Audrey tout à l'heure, qui depuis l'adolescence vit avec cette maladie et ses douleurs. Et puis on évoquera également les dernières pistes qui existent pour prendre en charge ces douleurs effectivement très, très invalidantes. Parfois.
À suivre donc dans CQFD. Ce sera juste après les infos de 10h qui arrivent à grands pas. Vous écoutez RTS La Première, il est 10h.